Radio Campus, Bruxelles, 92.1.
La Constellation.
Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Campus, la radio de la communauté de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans la Conspiration des planches, votre magazine critique des arts de la scène qui vous accompagne tous les mercredis entre 19h et 19h30 pour vous faire l'écho des scènes bruxelloises, bien évidemment. Mais aujourd'hui, pour la dernière de la saison, eh bien c'est une émission un petit peu particulière qui nous attend puisqu'on parlera de la saison à venir. Les spectacles sont un petit peu en sourdine pour le moment, mais ils vont revenir pour l'été, ça on n'en doute pas, dans les festivals dont on vous a parlé déjà la semaine dernière. Et on a des invités en studio pour se projeter un petit peu plus loin, à partir de fin août, début septembre, pour la reprise des scènes bruxelloises. Alors, j'ai une première partie de mes invités en studio avec moi et on va les saluer tout de suite. Bonsoir, Colin Streuf.
Bonsoir.
Colin Streuf, directrice artistique et générale du théâtre Varia. Du Varia, tout court, hein, maintenant.
On ne dit plus le théâtre Varia. Voilà.
Et merci d'être avec nous. Nous avons également Pierre Theys, directeur du Théâtre National. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et s'assied à l'instant, mais le temps de s'installer, Sarah Siré, directrice du Théâtre des Martyrs. Bonsoir Sarah.
Bonsoir.
Merci d'avoir couru dans la chaleur. Voilà, on va se mettre à l'aise tranquillement pour pouvoir discuter et pour pouvoir donc se projeter un petit peu dans les mois à venir et dans vos programmes de saison. Alors, on ne va pas détailler évidemment toutes vos programmations, mais surtout ce qu'on va voir, c'est les liens qu'il y a aussi entre vos maisons à travers cette saison. Et je dis bonsoir à Sabine également qui m'accompagne.
Bonsoir Nicolas et bonsoir tout le monde.
Merci.
Il y a du monde aujourd'hui en studio.
Il y a du monde, c'est bien. Ça crée de la chaleur en plus, hein, finalement. Donc. Et le bruit que vous entendez derrière, c'est un peu le ventilateur. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer, on va vous donner évidemment la parole à toutes et tous, par un petit peu, j'ai jeté un coup d'œil sur vos programmes et surtout sur les préambules, vos introductions, et vous parlez de choses, j'ai essayé de faire des ponts aussi entre ce que vous dites, et j'ai envie de commencer avec Sarah, première saison à la tête du Théâtre des Martyrs, une nouvelle directrice donc de maison, et... ça m'a fait rire cette allusion au calcium dans cette introduction du corps, mais du monde en soi finalement, que pourrait être le calcium. Tu peux nous en dire un mot ?
Bien, en fait, c'est amusant comme quand on doit préparer des choses, on a des images persistantes qui viennent et des fois on ne comprend pas trop pourquoi. Et j'avais cette image de film qui est le film La nostalgie de la lumière de Patricio Guzman. Et donc j'ai creusé et je me suis dit oui, mais en fait c'est ça, dans ce film, il parle du lien entre les étoiles et les os des hommes et femmes qui ont été assassinés par la dictature du général Pinochet au Chili dans les années 70. Et le corps, en fait, nos os, nos dents sont constitués du même calcium qui émane en fait des étoiles. Mmh. Et donc il fait ce lien entre l'immensément grand et puis le plus intime, le plus petit qui se retrouve malmené mais qui pourtant résiste au temps puisqu'on peut retrouver encore aujourd'hui des bouts d'os de ces personnes.
Et donc et le rapport avec une saison théâtrale
c'est l'essentiel, c'est qui nous sommes dans ce rapport au monde et puis ce qui nous relie, ce qui fait qu'on fait partie de l'humanité, de la planète Terre et comment on peut rendre compte de ça dans une saison théâtrale en se disant que c'est ça qu'on essaie de faire, c'est de nous relier les uns aux autres par l'essence qui nous rassemble.
Et alors, ce qui est amusant, c'est que l'édito de saison, ou en tout cas le texte qui accompagne la saison au Théâtre National, est aussi axé sur le mot de monde. Ça s'appelle « Un monde ».
Et de corps, puisque la saison, le projet de Pierre Theys, ça s'accompagne aussi du corps en soi.
Mais dans cette saison-ci, ça s'appelle « Un théâtre monde ». C'est comme ça, Pierre, que vous présentez la saison. C'est marrant, en fait, ce lien autour du thème du monde et du théâtre monde.
En effet, Je pense que oui, c'est quelque chose qui nous rassemble. Après, le théâtre monde tel que moi je le conçois ou tel que nous le concevons au Théâtre National, c'est aussi peut-être un petit clin d'œil à la ville monde dans laquelle on travaille et on vit tous, qui est Bruxelles, quoi, cette ville éminemment cosmopolite. Mais en effet, je trouve que la question du corps est aussi un endroit où on se relie toutes et toutes. C'est un peu une obsession pour moi. J'avais labellisé ma première saison en arrivant au Théâtre National Hypercore. C'est sans doute le parcours que moi j'ai conduit dans le secteur de la danse. Après, je pense, et ce n'est pas un scoop, tous les corps vivants sont aujourd'hui en danger et je pense qu'il faut en prendre soin, et grandement.
Alors justement, du soin, du lien, c'est aussi au menu dans le, j'allais dire, l'édito, ou en tout cas tout ce qui accompagne l'explication de saison, en tout cas, Ovaria, puisque Colin Streuf, vous donnez la parole à 4 femmes dans votre programme qui parlent de leur rapport au réel, leur rapport à leur pratique. On a une sociologue, on a une journaliste, on a une travailleuse du social, mais qui fait d'air aussi, puisque c'est Céline Van Nieuwenhuys, celle qui représente le secteur, et on a une chercheuse aussi également. Alors, que nous disent ces femmes? Qu'est-ce que vous avez, je ne vais pas dire voulu leur faire dire, mais qu'est-ce que vous avez voulu porter comme parole avec elles?
Ce qui nous intéressait, c'est effectivement la question du lien, du soin, donc d'aller vers des femmes qui ont aussi une parole sur le monde et qui cherchent à savoir comment on œuvre à travers ce monde, mais de manière à d'autres endroits, et de dans ce lien avec l'autre, enfin de sortir de notre endroit de théâtre et de se dire qu'est-ce que ces personnes viennent ou trouvent à l'intérieur du théâtre, en fait, et pas seulement de parler du Varia du coup, mais vraiment de la démarche de qu'est-ce que c'est la représentation et qu'est-ce qu'on y trouve. Et donc on a essayé de chercher chez chacune d'elles, en fait, quel était cet espace singulier, qu'est-ce qu'on faisait au théâtre que elles font différemment ou qu'elles ne font pas, ou voilà. Et donc je pense que ce qui en ressort, c'est vraiment de cet espace de quelle force et quel déploiement et quelle respiration peut amener cet espace de l'imaginaire et du récit du monde que proposent nos théâtres. Alors, sur le coup, parce qu'il y a aussi une idée là derrière de défendre en fait cette singularité de la scène et de la représentation au Varia, mais aussi en fait. Dans la cité et dans le monde, parce qu'on est aussi, et d'ailleurs comme les chercheuses, comme les journalistes, comme toute une série de gens, les enseignants, les personnes qui sont dans les soins de santé, mis à mal dans le discours qui est fait à travers la société de nos métiers.
Mais j'ai envie de demander, justement, faire une programmation, c'est se positionner dans un monde, et c'est se positionner par rapport aux thématiques, aux problèmes, aux crises qui traversent le monde.
Oui, peut-être aussi dire que c'est une manière, en tout cas pour nous, de pouvoir réaffirmer notre pouvoir d'agir. Tu parlais en préparant l'émission de toutes les collaborations qui existent entre nous, nos différentes maisons. Mais je pense que réaffirmer notre pouvoir d'agir aussi, c'est dynamiser cet écosystème fructueux, fécond.
Malgré ses fragilités,
et tisser des liens et des collaborations. Quoi.
Et en dépit de ses fragilités, peut-être pour répondre aussi à ses fragilités, c'est ça aussi qu'il y a derrière, justement, ces collaborations.
Mais j'irais même peut-être plus loin, je pense que ça nous permet aussi de faire entendre le fait que nous ne sommes pas des espaces autonomes et qu'on est, nous, en tant qu'opérateurs culturels sur la place de Bruxelles Capitale, connectés aux questions géopolitiques, aux questions politiques, économiques et sociales, comme le soulignait Colin il y a 2 secondes.
Sarah, justement, c'est ta première saison en tant que directrice. Quand on vient avec un nouveau projet, comme ça, quand on candidate pour prendre la tête d'une maison, on questionne, j'imagine, ses rapports au monde et ses possibles partenariats.
Tout à fait. Dans la candidature, justement, j'ai travaillé aux différents cercles de connexion qu'on peut avoir, que ce soit le cercle du quartier, de la ville, et puis ensuite de la région, et puis du pays, et puis de l'international. Et que donc l'idée, c'est d'arriver à se situer dans tous ces cercles et de savoir quel type de connexion on a envie de privilégier pour quel type de relation au spectacle, pour quel public, etc.
Et quels ont été les choix pour toi ?
Ben, c'était d'essayer de travailler à tous ces cercles-là.
Et ça se traduit comment, justement, dans la programmation ou aussi dans la manière dont le théâtre vit?
Dans la production.
Dans son quartier, dans
donc son écosystème. Ça peut être aussi, tout simplement, justement, dans la brochure Un monde en soi. On a travaillé avec un photographe, Pablo-Antoine Neufmars, qui, la commande, c'était qu'il aille photographier les spectacles de façon in situ dans le quartier pour faire exister ce quartier et comment le quartier résonnait avec chaque spectacle. Et donc ça, c'est une façon, mais après il y a d'autres façons de travailler avec le quartier. Et puis après il y a le fait de collaborer avec nos voisins. Il y a on est dans un milieu très compétitif dans le sens où il y a beaucoup de gens qui veulent faire du travailler, etc. Comme artiste
dans les arts de la scène.
Arts de la scène, et en fait c'est difficile pour tout un tas de raisons. Mais en fait je crois que justement la volonté de nos maisons actuelles et des directrices qui les composent, c'est de faire fi de cette compétition là et d'essayer d'être en lien et en connexion et en intelligence pour pouvoir travailler ensemble et coexister tous ensemble dans nos spécificités.
Alors ces idées, je relance Colline, ces idées de collaboration finalement viennent aussi un peu contrebalancer un discours où il faut collaborer pour faire des économies, mais ici c'est pour porter des projets également.
Oui, totalement. J'allais dire, en fait, penser ces questions de vulnérabilité, de collaboration, de coopération, etc., c'est aussi agir selon le monde qu'on raconte sur nos plateaux. Et je veux dire, c'est vachement important, en fait, de dire on n'est pas que en train de raconter des histoires, on essaye d'acter ces histoires et de déconstruire l'idée que la loi du plus fort qu'on essaye de nourrir, instaurer de manière très ferme et très prégnante, de continuer à dire en fait c'est pas ce modèle là qui nous intéresse. Donc c'est pas pour faire des économies, c'est aussi pour agir au quotidien le monde qu'on désire et qu'on raconte, et donc et porter des projets et montrer les artistes, c'est-à-dire qu'aux différents endroits qu'on a de collaboration, c'est toujours aussi pour faire en sorte que les artistes puissent être encore mieux vus, encore mieux portés dans leur chemin de création.
Parce que...
Ouais, oui, moi j'avais juste envie, je reviens un tout petit peu en arrière sur le fait que on évoquait en début d'émission, Sarah, que c'était ta toute première saison en tant que directrice du Théâtre des Martyrs. Et moi je voulais savoir comment tu l'avais conçu. Alors ça s'appelle Un monde en soi, on a expliqué, on a parlé avec Pierre de cette question du monde, du corps. Tu expliquais comment tu l'avais aussi imaginé, cet édito, enfin ce que tu expliques dans l'édito comme une espèce de... on existe dans un univers en fait, dans un écosystème finalement très très large, l'infiniment petit et grand. Et au fond, qu'est-ce qui avait été important pour toi, très concrètement, dans tes choix de programmatrice? Comment est-ce que ça s'est construit? Est-ce que... il y avait d'abord une thématique et un fil que tu avais envie de suivre, ou c'est plutôt le contraire, le fil est venu après?
C'est le cœur qui m'a guidée. Mais c'est vrai, c'est que d'abord dans la programmation du dossier, j'ai choisi des artistes avec qui j'avais envie de travailler parce que j'aimais leur travail. Donc ça, c'était déjà le premier point. Ensuite, quand il s'agit de faire la programmation, il faut voir comment ça peut se réaliser. Donc là, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Mais à chaque fois, c'est essayer d'être le plus proche comme je disais, de l'essentiel, c'est-à-dire de ce qui fait vibrer, en fait, de me dire il faut que ce soit quelque chose qui soit parlant pour un large public, etc. Donc je me dis, si moi j'y crois pas à 1000%, donc c'est déjà ça qui guide. Et puis ensuite, en termes de dramaturgie, donc je suis pas partie avec un fil, j'avais pas d'idée préconçue, mais en termes de dramaturgie, après ce qui m'intéresse, c'est justement l'empouvoirment, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on raconte de notre monde et comment on a envie de se raconter le monde et comment du coup les histoires qu'on raconte nous imprègnent et nous conditionnent. Et donc si on ne montre que la dystopie, que la dictature, que des Hunger Games, on est prêt pour vivre les Hunger Games, et quand ça arrive, on est prêt. Alors que si on commence à porter des imaginaires différents et se raconter la vie d'une autre façon, et bien peut-être qu'on sera prêt à avoir d'autres imaginaires sur notre futur. Et donc, c'est un peu ça qui m'a guidée. Et dans toutes les propositions, j'essaye de voir justement quelle finesse ça amène dans notre perception du monde et quel espoir ça peut créer.
Ouais, et puis aussi de prendre ta place à toi dans le cadre d'un héritage qui est quand même celui du Théâtre des Martyrs, avec Philippe Sirin, oui, qui était là avant, mais après tous les prédécesseurs. Donc c'est ça aussi la difficulté d'une première saison, c'est dire, ben voilà, moi maintenant, Sarah Siret, voilà ce que j'amène, voilà ce que je suis dans une continuité, dans une rupture.
Alors très sincèrement, j'ai pas du tout pensé comme ça. J'ai pas pensé comme ça parce que d'abord, je suis plutôt respectueuse de ce qui a été fait avant et dans l'idée d'être dans la continuité et pas de créer la rupture. Et j'ai vraiment pensé à faire les choses... pas pour me démarquer, pas pour pisser aux quatre coins, ça m'intéresse pas. C'est vraiment arriver à faire émerger du sens et de l'espoir. Ça, par contre, ça me plaît, quoi.
Pierre, Sarah disait, il faut se faire confiance quand on programme, faire confiance à son cœur, à ses choix. C'est aussi faire confiance aux spectateurs. Comment il va les accueillir?
En ce cas, c'est être à l'écoute, ça c'est sûr. Après,
des publics, ça?
Des publics, on va dire dans leur multitude. Après, moi, j'aime aussi l'idée qu'en fait, seul le regard du programmateur-directeur n'est pas essentiel, en fait. Et je pense qu'on travaille tous aussi à l'écoute de beaucoup de choses, de beaucoup de gens. Au Théâtre National, par exemple, je ne programme pas seul. J'ai une collaboratrice qui programme aussi et des spectacles que je n'ai pas vus pour permettre un éclectisme le plus large possible et toucher une diversité des publics la plus importante possible, quoi.
Ouais, et au Varia
pardon, je sais plus où j'étais. J'étais dans la chaleur.
Est-ce que tu travailles toute seule, Colline?
Je ne travaille pas toute seule. Après, pour moi, l'enjeu, c'est ce qui structure toujours les programmations en premier, c'est les nouvelles créations. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment l'enjeu de faire naître des nouveaux spectacles, d'accompagner des artistes dans la création et du coup de affronter l'inconnu que c'est une nouvelle création, parce qu'en fait, là, on découvre quand même le spectacle finalisé le jour de la première. C'est toujours ces spectacles-là qui vont nourrir le plus fortement l'imaginaire de la programmation. Et donc, eux font un socle après, un fil rouge après pour qui se compose avec le reste.
On reviendra sur ces fils rouges et vos collaborations juste après une petite pause musicale. Et on se retrouve, le temps de se rafraîchir un petit peu.
Oui.
Attraction, c'était Sébastien Tellier avec Juliette Armanet à l'instant, un des morceaux sortis tout récemment et extrait du nouvel album de Sébastien Tellier, Kiss the Beast. On est de retour sur Radio Campus dans La Conspiration des Planches, toujours avec nos invités en studio, Sarah Siret, directrice du Théâtre des Martyrs, colistre du Varia et Pierre Theys du National et Sabine Ringelheim toujours avec nous.
Oui, toujours.
Pour relancer la discussion.
Pierre, j'avais envie de vous demander à tous les trois comment les les difficultés budgétaires qui sont à la fois existantes, mais aussi celles qui vont indéniablement encore arriver. Comment ça se traduit dans, bah, déjà dans votre travail au quotidien, mais aussi dans les programmations? Est-ce que, par exemple, dans la programmation du National, cette saison-ci, il y aura moins de spectacles que dans les programmations précédentes?
Alors, je vais répondre positivement à la question. Il y aura moins de spectacles, mais qui ne sont pas liés au contexte budgétaire actuel. Ils sont plutôt liés à cette question de la décélération, qui est aujourd'hui une dynamique qu'on a tous envie d'engager et qu'on engage tous et toutes dans nos maisons. Après, ça ne veut pas dire que je ne suis pas inquiet et que nous ne sommes pas inquiets de la situation qui se profile aujourd'hui. Je pense que ce qui se passe en France est extrêmement alarmant.
Et donc là, quoi, tu parles notamment dans certaines localités de spectacles qui sont annulés pour des raisons politiques, tu veux dire alors, ou bien les questions budgétaires?
Les deux. Il y a ce contexte d'ingérence de plus en plus prégnant à l'échelle de la France, où tout d'un coup le politique se mêle du travail de programmateur, de programmatrice, donc des théâtres municipaux, des théâtres...
Et ça, c'est des choses que vous sentez déjà les unes et les autres ici?
Ici en Belgique, non, pas de l'ingérence comme ça. Enfin, moi, en tout cas, j'en vis pas. On peut jamais que témoigner de sa réalité, mais...
Oui, je n'en vis pas non plus du tout. Par contre, on peut que rappeler le CCU à Uccle, qui a dû déprogrammer. Il y a eu de l'ingérence politique, apparemment.
Ouais, tu parles du spectacle de Guillaume Meurice, qui avait été annulé.
Mais alors, par contre, sur les enjeux financiers, puisque c'est ça qui est posé aussi par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, comment avez-vous été amené à y contribuer, ou comment vous a-t-on imposé certaines choses aux économies demandées?
Pour l'instant,
contribuer à la politique, c'est pas ça. Ouais, mais oui. Comment, comme dit le gouvernement, on aimerait que les secteurs contribuent à l'effort.
Je pense que, on n'a pas, enfin, les efforts ont été divers, c'est-à-dire qu'on n'a pas été indexé, ce qui a un gros impact, puisqu'on indexe les salaires, tout le monde le sait, du coup ça a un gros impact quand même sur nos budgets.
Et les subventions ne sont pas indexées cette année.
Voilà, et donc, mais en fait la situation est plus largement compliquée, parce qu'en réalité la société est en train de s'appauvrir, les gens ont moins d'argent, donc en fait nous c'est comment on défend le fait qu'on pense que la culture doit être accessible à toutes et tous, et du coup comment on oriente des moyens à la fois pour ne pas perdre en qualité de spectacle proposé, dans la manière dont on soutient les artistes, et en même temps comment on travaille à continuer à garantir une accessibilité culturelle à tous, alors même que c'est ce type de soutien-là et de politique-là qui sont attaqués.
Par exemple, au Varia, votre politique tarifaire, c'est de donner un prix indicatif, notamment, et un prix qui reflèterait une certaine réalité de ticket de base, on va dire comme ça, mais vous laissez une marge aux spectateurs dans le paiement.
Donc le principe du pay what you can.
Ouais. Ça fait, on n'est pas les seuls à le pratiquer. Effectivement, ça, c'était aussi une question de ne pas vouloir contrôler les gens, de se dire que les gens sont assez responsables pour se conscientiser sur qu'est-ce qu'ils peuvent payer ou pas en ce moment. Parce qu'en fait, on n'est pas toujours dans les mêmes réalités financières. Mais je veux revenir sur la question financière. Pour moi, on est des extrêmement bons gestionnaires. Et on est tout le temps mis à mal par des politiques qui, en fait, ne sont pas dans des gestions à moyen et long terme, et qui prennent des décisions en dernière minute. Et pour faire face à ça, je peux dire que le fait de regarder les saisons qui sont la saison prochaine dans les théâtres montre en fait à quel point on est résilient et capable en fait de continuer à mener des projets solides, intelligents, en soutenant la création, en pensant les publics, alors même qu'on est mis à mal avec des politiques qui en fait se font à la dernière minute.
Mais vos budgets sont faits alors qu'en politique on sait parfois que ça traîne, par exemple.
Voilà, mais donc je veux juste dire aussi qu'on est des bons gestionnaires, parce que j'ai l'impression que parfois, dans la culture et pas seulement, mais il y aurait l'impression qu'on serait comme ça un peu...
Des poètes,
oui, c'est ça. Fait, mais en réalité, ce qu'on fait avec l'argent qu'on nous donne, c'est extrêmement impressionnant. Et donc l'endroit par contre où il y a des vigilances et des attentions, c'est comment on continue à garantir un bien-être au travail, comment on continue à garantir une qualité d'accompagnement. Et ça demande parfois, mais par aussi intelligence, comme disait Pierre, de décélérer un petit peu.
Et ce qu'il y a aussi d'hyper important donc à souligner et à s'y resignifier aujourd'hui, c'est qu'on est extrêmement attaché à nos missions de service public, quoi. Mmh. Et que c'est dans ce cadre-là qu'on travaille avec de l'argent public.
Et Sarah. C'est pour ça que je voulais rappeler l'article 23 de la Constitution belge, qui dit que chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine, et pour cela, doivent être garantis, le droit au travail, le droit à la sécurité sociale, le droit à un logement décent, le droit à la protection d'un environnement sain, le droit à l'épanouissement culturel et social et le droit aux prestations familiales. Ça, c'est les 6 points. Donc évidemment, on peut détailler le droit au travail et au lit. Enfin voilà, tout ce qui est... Je vous invite à lire, chère auditrice, l'article 23, c'est dans notre constitution belge pour garantir une vie digne et on a droit à l'épanouissement social et culturel.
Parce que vous...
Et
justement... Oui, vas-y, Sabine.
Non, pardon, non, mais... on n'arrête pas de s'interrompre. C'est pas évident parce qu'on n'est pas tout à fait
dans la même pièce.
C'est la question de la démocratie culturelle, de l'accès à la culture. C'est une question hyper importante et c'est une question, je pense, vraiment très importante pour vous trois. La question de la médiation culturelle, notamment. Mais dans le cadre de restrictions budgétaires, d'un contexte où, sans doute, des gens, en tout cas, vont avoir de plus en plus de difficultés à pouvoir accéder justement à la culture, même si on pratique des tarifs préférentiels, même si on pratique des tarifs qui permettent au plus grand nombre d'y accéder. Donc ça va vous demander aussi, en termes de médiation culturelle, ou même en termes de politique de vos théâtres, des réflexions, des adaptations.
Alors, on parlait de programmation tout à l'heure et de la difficulté à monter un programme avec la joie aussi que ça consiste. Mais je pense qu'aujourd'hui, les questions de relation avec les publics, les questions de médiation sont aussi importantes dans chacune de nos maisons que la programmation qu'on est en train de bâtir, quoi. Et c'est un axe de travail ultra important qui a toujours été présent dans les maisons. Mais sans mépris aucun, c'était une autre époque, mais où on parlait plutôt de remplissage de salles avec notamment les publics scolaires. Aujourd'hui, on est bien au-delà de tout ça. Pour justement pallier à l'impossibilité d'un public plus précaire
ou les publics les plus éloignés, comme
exactement.
On dit, voilà,
c'est ça.
Moi je pense qu'effectivement on doit vraiment revoir nos stratégies quand même, parce qu'on a quand même un milieu associatif et un milieu scolaire où nos relais en fait sont en train de se fragiliser.
Alors il nous reste très peu de temps, malheureusement. J'aimerais quand même qu'on parle de vos liens entre
de
vous pendant
spectacle.
La saison, voilà. Un événement de la saison prochaine, c'est le Festival Crush, qui unira notamment le Théâtre National et le Varia avec les Tanneurs et le Rideau. Un petit mot sur cette initiative?
On est vraiment très heureuse de faire ça. C'est une vitrine professionnelle et pour le public de nos coups de cœur des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça sert...
C'est des spectacles qui ont déjà tourné?
C'est des spectacles qui ont déjà été créés, oui. Qui parfois ont déjà tourné. Et du coup, c'est vraiment l'idée de se rassembler, de faire ensemble pour montrer nos crushs et au public, mais aussi pour encourager la diffusion internationale. On revendique qu'il y a vraiment une qualité et un foisonnement de une qualité artistique en fait qu'on a à la fois envie de partager avec les publics et avec...
On le situe dans la saison, ça se passera quand?
En décembre.
Avec quelques noms de spectacles peut-être?
Il y aura en tout cas chez nous une reprise d'Orchestre Vide. Je ne serai peut-être, je ne connais pas toute la programmation.
Habib Bethanfous.
Laurence Mader au Théâtre National.
Voilà deux noms.
Oui,
Sabine.
Et peut-être pour terminer le tour de table, puisque le Théâtre des Martyrs n'est pas encore associé à Crush, mais peut-être, peut-être bientôt.
Ce sera un événement biennal, hein, on le dit. Hein. C'est la volonté en tout cas.
Mais peut-être le premier spectacle, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des spectacles avec tout ça, mais le premier spectacle qui va ouvrir ta saison, Sarah, qui s'appelle Tendre Feu, c'est un très beau titre, Boys Don't Cry, donc le spectacle de Romain David, membre du Raoul Collectif. Un mot là-dessus? Un spectacle sur la domination masculine?
Oui, c'est un travail qu'il a mené avec des étudiants de l'ESACT. Et donc, c'est un double objectif, c'est-à-dire à la fois un projet d'insertion professionnelle, je dirais, de visibilisation de jeunes artistes. Ça me tenait à cœur d'avoir chaque saison un projet qui met en avant les jeunes actrices. Et puis ensuite, ce qui est beau dans son travail, c'est que les hommes s'emparent enfin de cette question.
Et on citera également la collaboration entre le National et les Martyrs, parce qu'il y a des ponts autour de cette table sur une programmation Rwanda, on va dire ça, c'est le thème.
Dorsey Rugamba au Martyrs avec Ewa Rwanda et Gao Gugato, petit pays en Kinyarwanda au Théâtre National.
Et pour compléter le cercle, le Varia et les Martyrs proposent les veilleuses d'Héloïse Maire, si j'ai bien compris.
Tout à fait, en novembre.
Ça sera au Martyrs.
Les liens
sont
faits.
Voilà, merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous. Nous, ça se termine ici pour la saison. Et ça se termine aussi pour la conspiration des planches, puisqu'on met fin à l'émission après plus de 30 ans. C'était même avant nous, cette émission. Donc voilà pour la dernière. Je vous remercie à tous. On a essayé de vous faire partager les arts de la scène pendant toutes ces années et tous ces mercredis. Merci Sabine d'avoir été avec nous.
Je remercie. Merci Nicolas.
Et Elisabeth. Merci Isabelle. Et merci Catherine. Merci Nurten. Merci Olivier Espel aussi qui était parmi nous tout au long de ces années. Tout de suite, ben voilà, bonne planche à tous, même pendant l'été et même pendant toute votre vie, les théâtres à Bruxelles et ailleurs vous accueillent. Belle soirée à tous et bel été. Salut.
Merci. Merci. La construction.